ouvrez la porte, Sienne, 1338.
Nuit. Jour. Nuit.
Monsieur Lacour, je vous en prie, allons, ça devient casse-pied.
L'agrivoiserie ne choque pas l'Église. D'une certaine façon, la littérature d'inspiration cléricale est plus grivoise que la littérature courtoise.
Nous n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, il est 15h30 tout pile et vous écoutez Transhistorien, l'émission d'histoire de Transhistor. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en direct depuis le Théâtre Cantor. Pour cette première dans l'histoire de l'émission, je suis en compagnie de Clément.
Bonjour Marie.
Et de Maria.
Bonjour Marie.
Et nous recevons aujourd'hui Damien Boquet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et co-directeur du projet de recherche EMA, c'est-à-dire l'acronyme d'émotion au Moyen-Âge. Et c'est pour parler d'émotion que nous vous avons invité aujourd'hui, à partir de votre livre paru il y a quelques mois, « Sensible Moyen-Âge », sous-titre « Une histoire des émotions dans l'Occident médiéval ». Alors c'est un ouvrage que vous avez coécrit avec votre collègue médiéviste Piroska Nagy, un ouvrage dans lequel vous proposez une histoire des émotions et du sensible, pour reprendre le mot de Lucien Febvre, selon une démarche plutôt chronologique, et en effet, votre ouvrage couvre une très large période qui s'étend du 3e au 15e siècle. Alors peut-être une première question pour nos auditeurs qui ne sont pas historiens. A priori, on pourrait penser depuis notre 21e siècle que les émotions sont plutôt de l'ordre de l'expérience personnelle, que nos émotions n'appartiennent qu'à nous. Qu'est-ce que faire alors une histoire des émotions et comment est-ce qu'on peut les envisager comme un fait social et collectif ?
Ben, la réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'est tellement évident que les émotions participent de la vie sociale. Elles sont évidemment intimes, du moins elles sont présentées comme ça. Mais ce qui rend l'étude des émotions médiévales fascinante, c'est justement que les sources en abondance nous les montrent dans la vie publique, tout le temps, partout.
Alors, est-ce que vous avez des exemples ?
Alors, les exemples, ils sont très nombreux. Dans la vie politique, il n'y a pas de prince qui gouverne sans les émotions. La colère du prince est vraiment très, très importante dans la vie politique. La question de la honte dans les relations aristocratiques, de la honte dans la vie religieuse, c'est absolument fondamental. La question de la souffrance, de la tristesse, évidemment, dans le christianisme, et centrale aussi, et puis aussi les émotions joyeuses. Enfin, le Moyen-Âge est une période évidemment où les sources nous montrent beaucoup de rire, beaucoup de joie, de farce, et donc voilà, elles sont absolument partout.
Et vous rappelez dans votre livre que si on a longtemps cru que ces émotions étaient très spontanées, finalement en fait... Certes, les émotions sont publiques, mais elles sont quand même codifiées.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est même plutôt le Moyen-Âge a fasciné les historiens, au moins depuis le 19e siècle, enfin Michelet et d'autres, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'était la spontanéité émotionnelle était vraiment fascinante. Sauf qu'on la lisait comme une spontanéité, comme l'expression d'une émotivité qui n'était pas contrôlée, et donc aussi comme une espèce de préhistoire de la civilisation moderne, où enfin, à la Renaissance, je ne sais pas si c'est enfin, mais où en tout cas à la Renaissance, il y avait une forme d'intériorisation, de sublimation de l'émotion, mais en fait qui venait tout simplement du fait que notre propre société, enfin celle du XXe siècle, a eu beaucoup de difficultés pour penser un cadre public très très émotif et en même temps des émotions qui étaient parfaitement codifiées. Enfin, je veux dire, alors qui laissaient la place aussi à des débordements, à des ratages, mais où il n'empêche que les codes, les règles de l'expressivité émotionnelle, la fonction des émotions, étaient aussi très très balisées, connues, partagées et dans tous les milieux.
Alors, on parlait de Michelet, je crois que Clément a une question pour vous.
Oui, j'ai une question d'historiographie sur cette historiographie des émotions. Quand on pense histoire des émotions aujourd'hui, on pense évidemment, en tout cas quand on est historien, à Jacques Le Goff et à son séminaire sur l'histoire du rire à la fin des années 90. Donc on pense finalement à une historiographie française relativement récente. Or, vous parliez de Michelet, de cette histoire des émotions envisagée comme cette spontanéité médiévale, en lien avec un schéma de civilisation. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces aspects ?
Oui, alors ce qui est très très ancien, c'est le fait que, enfin ce qui est très ancien, au moins depuis le 19e siècle, c'est que les historiens ont été fascinés par le poids des passions, voilà, dans les sources médiévales, enfin Grégoire de Tours et autres. Mais ce qui est beaucoup plus récent, c'est le fait de considérer que les émotions ont une histoire, parce que c'est vraiment une chose. Enfin, ce sont deux choses très très différentes que de voir l'émotivité en acte et de considérer que à la fois les émotions évoluent dans l'histoire, que leur fonction, mais aussi leur existence même, qu'il y a des émotions qui apparaissent dans les sociétés et puis qui disparaissent aujourd'hui, qui ressent de l'acédie alors que ça a été une émotion monastique, une espèce de désespoir, de tristesse, de dégoût de Dieu absolument fondamentale pendant toute la vie monastique. Et donc c'est l'idée que les émotions ont une histoire, ça, et doivent être pensées comme telles par les historiens, ça c'est plus récent. Ça date vraiment des années 20, des années 30, du début de l'école des annales. Il y a un célèbre article de Lucien Febvre justement qui pose cette question-là, hein, comment reconstituer la vie affective d'autrefois, qui est paru dans la revue des annales en 1941. Et puis, si l'idée, le projet est lancé assez tôt par Lucien Febvre, mais aussi par Marc Bloch et d'autres, Robert Mandrou un peu plus tard, hein, il faut quand même attendre les années 70, Jean Delumeau, La Nouvelle Histoire, et puis beaucoup, c'est vrai, Jacques Le Goff, pour qu'il y ait un projet d'historien pour penser les fonctions sociales des émotions. Et là, le séminaire de Le Goff sur le rire a eu un rôle déclencheur évident.
Alors donc ça, c'est pour l'historiographie passée. Maintenant, sur l'historiographie présente, aujourd'hui, je crois, surtout dans le monde anglo-saxon, on essaie de penser les émotions à l'aune des acquis des neurosciences. Et c'est quelque chose qui, je crois, vous inquiète beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit et nous dire pourquoi ça vous inquiète, tout simplement?
Oui, alors m'inquiéter, je ne sais pas trop. En tout cas, ça pose problème. Et des fois, j'ai le sentiment que, et notamment, qu'on est assez protégé en France, dans le monde latin, par rapport à ce que moi, je perçois un peu comme des dérives de naturalisation de la vie culturelle. Et c'est un petit peu une espèce de relation ambiguë, c'est-à-dire que d'un côté, la psychologie cognitive, par exemple, qui dès les années 60, et puis surtout à partir des années 80, crée une espèce de rupture par rapport à un discours psychologique antérieur qui considérait que les émotions étaient justement irrationnelles, relevées de l'inconscient, relevées du naturel dans l'homme. Vous avez des psychologues qui ont commencé à penser les émotions comme des phénomènes rationnels, comme la construction d'une autre rationalité. Et puis là-dessus s'est enchaîné également les sciences dures, et notamment les neurosciences, qui sont parties également de cette perspective-là. Et donc d'un côté, c'est tout un ensemble de discours qui est très intéressant à prendre en compte pour l'historien, parce que justement ça remet en question cette espèce de croyance très très ancienne dans l'irrationalité des émotions. Or, la culture médiévale à la fois penche de ce côté, mais en même temps, elle croit également beaucoup dans une forme de rationalité morale de l'émotion, du côté aussi bien des vertus que des vices. Et donc, ce discours venu de la psychologie cognitive, venu des neurosciences, nous a beaucoup servi comme point d'appui pour déconstruire nos propres préjugés. Si ce n'est que, depuis quelques années, il y a une espèce de retour de balancier un petit peu violent, c'est-à-dire que, autant à l'époque de Lucien Febvre, on pensait par exemple que la psychanalyse allait servir de référence scientifique pour penser l'émotion, ça a été en partie déconstruit, parce que la psychanalyse elle-même était, elle émane d'une société particulière. Aujourd'hui, on est en train de retomber dans le même travers, à savoir que ce sont les neurosciences qui apporteraient le socle de pensée sur l'émotion. Or, de fait, personne ne nie que dans les émotions, il y a du biologique, mais le simple fait de parler d'émotions plutôt que de sentiments, plutôt que de vie affective, en tout cas d'avancer tous ces concepts-là, c'est déjà une démarche qui est culturellement déterminée. Et donc, je pense que ce serait, et c'est en partie, notamment dans le monde anglo-saxon, une assez grossière erreur que de se mettre à la traîne des neurosciences.
D'accord, merci. Alors maintenant, on va avancer un peu plus sur le livre lui-même, avec Maria.
Oui, alors moi j'aurais quelques questions à vous poser sur la constitution du corpus de sources concernant cette histoire des émotions. Alors, comme Marie l'a dit dans son introduction, on a tendance à penser les émotions comme quelque chose qui relève de l'expérience personnelle, de l'intime. Et du coup, je me demandais comment concrètement on fait pour constituer un corpus de sources dans la mesure où on n'a pas vraiment accès aux ressentis des gens, mais seulement à l'expression de leurs ressentis. Et très concrètement, en fait, quelles sont les sources mobilisables pour faire une telle histoire?
Les sources mobilisables, elles sont absolument infinies. C'est-à-dire que le discours autour des passions, autour des affects, autour des émotions, des émotions, on appelle ça comme on veut, ce discours, il traverse quasiment toutes les sources, enfin les sources normatives, les sources religieuses, les traités de spiritualité, la théologie, les chroniques, la littérature, les sources de la pratique, les procès par exemple, où les gens mettent leurs émotions, la haine, la colère, les larmes, en scène constamment. Et donc c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on ne sait pas par quel bout prendre les corpus médiévaux, parce que les émotions sont absolument partout. Et donc le choc aussi de l'historien, enfin que nous on a vu se constituer, fait que ma génération a vu se constituer dans les années 80-90, je pense, a été un peu comparable à l'histoire des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on a été un certain nombre à se regarder et à se dire, mais on a oublié la moitié de l'humanité quand ça a été l'histoire des femmes, et là on a oublié la moitié de l'homme qui était tellement présente dans les sources. Et donc la question ne se pose pas en termes de mais où sont les émotions dans les sources médiévales, parce qu'elles sont absolument partout. Alors la question de l'intime, du ressenti, du fait qu'on n'a pas accès à l'authenticité des émotions des médiévaux, alors cette question-là, on la résout, enfin d'abord, on la résout pas complètement, mais on oublie peut-être de se la poser pour nous-mêmes, c'est-à-dire que comme si dans la vie contemporaine de tous les jours on avait accès aux émotions des autres, et donc comme si il n'y avait pas déjà une énorme difficulté, et comme si déjà on avait accès à nos propres émotions, c'est encore quand même une autre question, mais cette difficulté finalement elle existe pour toute la vie, enfin dans la vie, dans la vraie vie, et donc il n'y a pas de raison qu'elle soit un obstacle infranchissable pour le Moyen-Âge. Et puis je pense aussi que considérer les émotions comme un phénomène uniquement de ressenti, uniquement psychologique, ça aussi c'est un biais contemporain. C'est-à-dire que ce n'est qu'une petite partie de la réalité émotionnelle des sociétés. Les émotions, quand elles sont codifiées, quand elles sont ritualisées, elles n'en existent pas moins tout entière comme émotion dans un autre cadre. Et cet autre cadre-là, il est quand même plus accessible. Donc c'est vrai que nous travaillons sur les discours, sur les émotions, nous travaillons sur les représentations, sur les codifications. Donc, mais ce sont quand même pleinement des émotions.
D'accord. Mais justement, sur ce discours des émotions, j'ai remarqué que dans votre livre, vous citiez beaucoup de sources ecclésiastiques. Et du coup, j'aurais aimé savoir quelle image ce biais des sources ecclésiastiques peut donner des émotions au Moyen-Âge. Est-ce qu'on a, par exemple, plutôt une condamnation des émotions, ou au contraire, on a plutôt une valorisation de certaines émotions par rapport à d'autres ?
Alors déjà, cette forte présence des sources religieuses dans le livre, c'est un petit peu nos limites à nous, à Piroshka, Nagy et moi-même. C'est-à-dire que nous sommes à l'origine plutôt des historiens du religieux, de la spiritualité, et donc c'est un peu notre travers, si je puis dire. Alors évidemment, qui est amplifié par la réalité documentaire des sources médiévales, qui pendant très longtemps sont quand même massivement ecclésiastiques. Donc tout ça pour dire que il y a, elle est en train de se faire, mais il y a de très belles histoires des émotions à construire encore aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui, hors des sources ecclésiastiques. Les sources de la pratique, par exemple, sont très très peu explorées dans cette perspective-là, et c'est absolument une mine. Enfin, ça a été fait en partie par Claude Gauvard et tout ça, qui étudie les procès, les lettres de rémission et autres. Mais donc il y a un énorme travail à faire. La forte présence du discours ecclésiastique a accentué, par exemple, la connotation morale de la vie émotionnelle. La grande rupture peut-être qu'introduit le christianisme, qui reprend énormément de choses au savoir et à la culture antique par rapport aux émotions, par exemple certaines formes d'exigence dans la modération. La grande rupture, c'est l'idée selon laquelle les émotions sont les fondements des vices et des vertus. Voilà. Et donc, à partir de là, la vie émotionnelle est une espèce d'aiguillage de la destinée individuelle vers le péché ou vers le salut. Et donc, il y a un questionnement, une interrogation, une mise en scène de l'émotion qui est absolument constante et qui, par ailleurs, et là, c'est une grande rupture par rapport à l'Antiquité, valide, d'une certaine façon, des émotions intenses exacerbées à partir du moment où elles servent la vertu. C'est-à-dire que si le principe de la modération, qui vient notamment du stoïcisme tardif, demeure toujours très très fort, il y a cette voie possible dans le christianisme d'une expressivité émotionnelle exacerbée, très très intense, qui néanmoins est pleinement légitime. C'est-à-dire que finalement, si la colère sert la justice, si la colère sert à combattre l'injustice, eh bien si l'injustice est énorme, il est légitime que la colère soit énorme. Et ça, c'est valable dans tous les domaines.
Alors merci pour ces premières réponses. Le temps d'une virgule sonore et nous revenons tout de suite sur la question plus spécifique du rire au Moyen-Âge.
Et tous les ans, nous fêtons cet événement. Et tous les ans, Paris est en chambardement. Les manants sont rois, les rois sont clowns et rient. Dans Paris, c'est grand charivari.
Alors, à l'instant sur Transistor, un extrait de la chanson Charivari du bossu de Notre-Dame de Gary Trousdale et Kirk Wise. Et nous parlons maintenant du rire médiéval, parce que c'est quand même une journée de la radio sur le rire, avec notre invité Damien Bocquet.
Alors moi, je vais poser une question très large et sans doute très naïve, mais de quoi rit-on au Moyen-Âge ?
Oula !
Voilà, merci Clément, tu mets notre invité dans l'embarras.
Évidemment qu'on rit de tout. Alors après, voilà, ce que l'historien peut voir, construire, et là, il faut quand même être très très modeste, notamment pour les périodes du haut Moyen-Âge, où c'est vraiment difficile.
Oui, on a très peu de sources.
Voilà, et donc cette difficulté, elle est valable dans tous les domaines. Et vu que l'Église a quand même un discours assez rigoriste par rapport au rire, c'est vrai que pendant les siècles du haut Moyen-Âge, on a surtout sur le rire un discours de condamnation, parce que le rire est lié au péché, enfin bon, facilement lié au péché. Donc là, c'est plus difficile. Lorsque les sources se diversifient, eh ben, on voit qu'on rit absolument de tout. Je veux dire, on rit surtout de tout le monde. Voilà. Et c'est, donc il y a beaucoup de rire qui est orienté vers les travers des différentes classes sociales, des métiers. On rit beaucoup des commerçants et de leur avarice. On rit beaucoup des femmes et des maris infidèles. Donc, la dérision. Alors, c'est quand même souvent un rire qui est, dans les sources qu'on a conservées, à vocation un petit peu moralisatrice. Ou alors, c'est un rire grivois. J'entendais dans le générique un extrait d'une récente interview de Michel Zinc, donc chez Emmanuel Laurentin, il y a une petite dizaine de jours, où il disait effectivement que, finalement, contrairement à certaines idées reçues, la grivoiserie n'est pas du tout la chose qui traumatise le plus l'Église. Et donc, on le sait très bien dans les sources littéraires de la fin du Moyen-Âge, les farces, une partie de la littérature poétique, la grivoiserie a bien sa place.
Moi, j'aurais voulu savoir, est-ce que tout le monde rit de la même chose au Moyen-Âge? Est-ce que le prince, il va rire de des mêmes choses, des mêmes jeux de mots, des mêmes blagues que le mendiant dans la rue?
Là aussi, c'est difficile de répondre à ces questions de façon générale. D'un certain côté, la réponse est non, mais en même temps, il y a beaucoup d'effets de source, de biais. C'est-à-dire que les sources, elles viennent de gens lettrés. Et ce ne sont pas directement les paysans qui racontent ce qui les font rire eux-mêmes. Et donc, voilà, on a l'impression, eh bien, à lire, par exemple, le théâtre comique de la fin du Moyen-Âge, que le paysan, que les gens illettrés rient de blagues scatologiques, de situations rocambolesques, de Marie Cocu, de moines bastonnés, alors que les gens mieux éduqués, eh bien, font des jeux de mots savants.
En latin.
Par exemple. De fait, on peut quand même en douter. Et comme dans beaucoup de domaines, on peut douter d'une si nette séparation entre ce qui serait une culture populaire et une culture aristocratique. Et donc moi, je pense qu'il y a quand même un terrain partagé du rire qui devait être assez large. Quoi.
Mais du coup, est-ce que c'est possible qu'il y ait certains milieux qui condamnent soit une manière de rire ou alors même qui condamnent le rire? Est-ce que ça existe, ça?
Ah, bien sûr que ça existe pleinement. Et c'est même plutôt... Enfin, on a tellement de discours dans ce sens-là Et ça, c'est Jacques Le Goff notamment qui l'a très bien montré et construit, en particulier de la part de l'Église. Bon. Alors l'Église, c'est vrai, a un regard méfiant par rapport au rire, parce que justement le rire, c'est le relâchement des émotions, c'est l'excès, c'est l'absence de mesure, c'est l'absence de gravité. Et lorsqu'on mesure le poids de la gravité dans la culture religieuse, monastique, qui est quand même le fondement de toutes les vertus, le rire, c'est un peu la porte ouverte à toutes les déviances. Et donc, par là, il y a une espèce d'assimilation possible, facile, entre le rire et le péché. Mais surtout, il y a, et ça, c'est ce qu'a montré Jacques Le Goff, et puis Jean-Claude Schmitt, notamment par la suite, et Jacques Berlioz aussi, et d'autres, il y a certains rires. Voilà, c'est que il n'y a pas un rire, il y a une multiplicité de rires. Ah, donc, alors, le rire à gorge déployée, et même avec tout un aspect corporel, le rire où on voit les dents, le rire où la bouche est grande ouverte, ça, c'est le rire dangereux, et même c'est le rire potentiellement diabolique. C'est le rire du fou. Bon. À l'inverse, le rire qui serait plutôt le sourire, mesuré, voilà, élégant, qui ne déforme pas les traits, celui-ci peut avoir sa place.
Alors moi, j'ai pas une question à proprement parler, je voudrais juste faire remarquer quelque chose. On parle beaucoup de Jacques Le Goff, évidemment, pour parler du rire au Moyen-Âge, et je voudrais vous faire remarquer que Jacques Le Goff est mort il y a exactement 2 ans, le 1er avril 2014, donc je pense que cette émission est sous de bonnes auspices.
Oui, je me rappelle même, j'avais cru que c'était un poisson d'avril à l'époque, j'étais fort déçu d'apprendre la vérité.
Et quand nous l'avions rencontré pour lui parler de projet du livre, sa première inquiétude, c'était « mais vous n'allez pas seulement parler de choses tristes, dramatiques, de larmes, de souffrances, est-ce qu'il va être aussi question d'émotions joyeuses dans votre ouvrage ?
Ah, on reconnaît Jacques Le Goff.
Oui, on s'était fait presque disputer, parce que c'est vrai que nous, vu qu'on travaille beaucoup sur des sources religieuses, on se complaît quand même pas mal dans des émotions tristes, quoi. Alors, et lui, il ne voulait pas.
Alors justement, on va parler de quelque chose d'assez joyeux, c'est une situation qui est assez connue, même pour les non-historiens, c'est ce qu'on a pu entendre dans Virgule Musicale, c'est la situation du charivari. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour nos auditeurs et nous en dire un peu plus sur les groupes sociaux qui font le charivari, pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi, etc.
Oui, alors finalement, vous savez, le charivari, c'est à la fois une attitude, enfin un rituel qui est très très connu, mais sur lequel on n'est pas si bien informé que cela. C'est-à-dire qu'on le voit apparaître seulement à la fin du Moyen-Âge, et selon toute vraisemblance, il s'agit d'une façon de tourner en dérision des comportements sociaux qui dérogent à la norme. Voilà. Et donc c'est plutôt une pratique de jeunes gens qui viennent se moquer soit de personnes plus âgées, ou en tout cas de personnes nanties, qui ont voilà, un comportement qui ne rentre pas dans la norme, et notamment la question du mariage et la question du remariage. Lorsqu'un vieux barbon se marie avec une petite jeunette, eh bien, voilà, on vient faire le charivari sous ses fenêtres pour quand même montrer que personne n'est véritablement dupe, que c'est un petit peu tourner le monde à l'envers. Et donc, voilà, le caractère dérisoire carnavalesque du charivari reproduit et montre un petit peu à la société que bah, la personne n'est dupe, quoi.
D'accord, les jeunes cons, les vieux cons.
Exactement.
Alors, du coup, Clément, une question pour vous encore ?
Oui, alors moi j'ai une question. On parle évidemment beaucoup de rire depuis quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous raconter une blague ou un jeu de mots qui aurait fait rire nos compères médiévaux ?
Voilà, alors ça, s'il vous plaît, pas en latin, ou alors en traduisant.
Ma grande angoisse quand voilà, vous m'avez annoncé ça par mail, que je devais faire des blagues médiévales au micro.
Oh, vous
un petit peu terrifié. Et donc, non, parce que c'est vrai que l'humour médiéval est parfois un petit peu moyenâgeux, et donc je ne suis pas sûr que... et Jacques Berlioz, d'ailleurs, aussi dit assez bien que finalement, on ne sait pas trop dans les pièces si les gens riaient à ce qui nous fait le plus rire. Enfin, on ne sait pas exactement, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tel jeu de mots conduisait les gens à rire à gorge déployée, ou est-ce que c'était plutôt, par exemple, le jeu avec les patois, ou bref. Donc, c'est pas, voilà, c'est des choses qui sont pas faciles. Et il y a beaucoup de blagues médiévales quand même qui aujourd'hui sont un peu pour nous, quoi, un peu du niveau blague carambar, quoi. Alors, j'ai J'ai cherché, alors Saint-Louis par exemple est un roi qui riait beaucoup, enfin on connaît beaucoup Saint-Louis pour ses larmes, quoi. C'est pas toujours un roi très très joyeux, mais en fait Joinville par exemple le présente comme un roi qui riait facilement. Bon, il y a une petite anecdote que raconte Joinville lors de la croisade en 1253. Donc il est en Terre Sainte, donc Louis IX, Joinville est à ses côtés, et à un moment il y a des pèlerins arméniens qui viennent voir Joinville et qui demandent, parce que la réputation de sainteté de Saint-Louis est déjà bien connue, et qui demandent à rencontrer le Saint-Roi. Donc Joinville s'exécute, il va voir Louis IX, il dit « ben voilà, il y a des pèlerins qui veulent rencontrer le Saint-Roi ». Il dit « mais je vous rassure, pour ce qui me concerne, je n'ai pas encore envie de baiser vos os ». Voilà. Et Joinville raconte que Louis rit de bon cœur parce qu'il trouve l'allusion assez marrante. Et, bon, et en même temps, c'est pas une prémonition, parce qu'au moment où écrit évidemment Joinville, ça fait quand même très longtemps qu'on baise les os de Louis.
En tout bien tout honneur. Hein.
En tout bien tout honneur. l'humour est quand même assez facilement scatologique. Je m'amusais à relire hier soir parce que c'est quand même un texte très connu et de la farce de Maître Patelin, bon, où il y a des scènes absolument assez géniales entre Patelin et un marchand drapier à qui il doit de l'argent. Et vu que Patelin ne veut pas le rembourser, quand le marchand se présente à lui, il fait semblant de croire que c'est son médecin qui vient le voir et donc il lui parle de ses problèmes de constipation, mais vraiment très très dans le détail, et donc avec toutes les douleurs qu'il a quand il va à la selle, la couleur de ses crottes, etc. Il dit oui, mais il lui explique que les pastilles qu'il lui fait manger ont un goût terriblement amer, mais évidemment que le spectateur comprend qu'en réalité Patelin mange des suppositoires contre la constipation. Donc voilà, genre d'humour quand même qui traverse cette littérature. Et puis il y a aussi toute une littérature, des recueils même de jeux de mots. Alors là encore, bon, pour nous c'est plus ou moins drôle, mais avec des devinettes, on aime beaucoup
vous les devinettes,
qui sont pas toujours très politiquement correctes. Quoi vous dire parmi celles qui sont dissibles? L'une d'entre elles dit « Vous connaissez la différence entre un jeune homme et un enfant ?» Ben non, alors la différence c'est que le jeune homme aime belle femme alors que l'enfant aime lait de femme. Hein, mais bien sûr, c'est, il aime le lait de femme. Bon.
Humour médiéval.
Humour médiéval, je vous l'avais dit, hein, c'est un peu niveau blague de carambar, quoi, donc.
Eh bien, Damien Bocquet, merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir raconté quelques blagues et d'avoir répondu à nos questions. Et comme d'habitude, on va conclure cette interview avec une question. Je te laisse la poser, Maria.
Oui, quel conseil donneriez-vous à un jeune historien débutant?
Oula.
La question formation, padawan.
Sincèrement, je ne sais pas trop. Enfin, je ne sais pas trop parce que je ne pense pas beaucoup dans la position de celui qui donne des conseils, doit donner des conseils. Peut-être de rester débutant le plus longtemps possible. Voilà, ce serait la principale des choses. De ne pas oublier que être historien, c'est un métier et pas une carrière. On en parlait tout à l'heure, quand on s'oriente dans cette direction-là, d'aimer enseigner. Je crois que c'est absolument terrible quand on fait de l'histoire et qu'on n'aime pas enseigner ou qu'on a cette idée d'enseigner à certains publics. Je crois que c'est se réserver bien des tristesses et de garder un enthousiasme, de ne pas trop écouter ses maîtres.
Merci. Ben merci. Alors ce sera le mot de la fin. Chers auditeurs, il va être temps de refermer cette émission. Merci à Clément et Maria pour l'avoir préparée avec moi, à ENS Média pour la technique et à Mathias qui était en régie. Merci à vous, Damien Bocquet.
Merci à vous.
Alors, Transhistorien, c'est terminé. Transhistorien, c'est terminé. Il est quasiment 16h et c'est l'heure du Flash Info.
Rebonjour Clément, bonjour à tous. Deux manifs de plus. plus, sinon rien. C'est le bilan de la journée de manifestation d'hier dans toute la France, à l'appel de 7 syndicats et d'organisations étudiantes pour qui 1,2 million de manifestants auraient défilé. Pour le ministère, c'est 400 000 personnes. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire pour les opposants au projet de loi déposé par Myriam El Khomri, car leur nombre a doublé depuis la dernière journée de grève, le 9 mars. Le gouvernement a d'abord semblé rester droit dans ses bottes, avant d'annoncer ce midi par la voix de Manuel Valls qu'il était prêt à discuter certaines propositions des organisations de jeunesse, et notamment celle de l'UNEF. Une manière peut-être de tenter de désamorcer la contestation sociale qui monte, avec déjà deux nouvelles journées de manifestations annoncées le 5 et le 9 avril prochain par la CGT et Force ouvrière. Alors que le prochain transfert de Salah Abdeslam en France fait les gros titres, on a appris que la réouverture de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, qui avait été touchée par les récents attentats, est retardée pour des questions de sécurité. Les policiers en charge de sécuriser la zone protestent contre leurs conditions de travail et le niveau de sécurité qu'ils jugent insuffisant. Les policiers en première ligne justement face aux attentats, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur en déplacement à Reims, a annoncé aujourd'hui un plan pour mieux préparer les premières unités intervenant sur les lieux d'un attentat de type tuerie de masse. Pour les membres de la BAC, la brigade anticriminalité de la police et ceux des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, il prévoit des équipements en armes lourdes et veut faire cesser la guerre des polices qui menace l'efficacité des interventions. Des soldats français à nouveau accusés de violences sexuelles en République démocratique du Congo. À l'appui de ces accusations, l'ONU présente des dizaines de témoignages contre des soldats de la mission Sangaris et des soldats burundais. Les faits dont ils sont accusés auraient été commis entre 2013 et 2015 et ils sont particulièrement odieux. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit profondément choqué par ces accusations particulièrement graves portées à l'encontre de ceux qui jouent le rôle de gardien de la paix. Si elles sont avérées, pour le représentant de la France à l'ONU, des sanctions disciplinaires exemplaires seront prononcées. La Corée du Nord a procédé ce matin à un tir de missile sur sa côte orientale, en mer du Japon. C'est une agence de presse sud-coréenne qui relaie l'information dans un contexte déjà très tendu, et alors même que se déroule en ce moment à Washington le sommet sur la sécurité nucléaire, où François Hollande a rencontré Barack Obama. Ce dernier a d'ailleurs félicité le président français pour sa lutte contre le terrorisme et son soutien au Moyen-Orient contre Daesh. Barack Obama a réaffirmé son soutien aux forces kurdes et a passé sous silence la prise de Palmyre par le régime de Bachar al-Assad. Dans le même temps, le département d'État américain a dénoncé vigoureusement les frappes du régime syrien contre un hôpital et une école dans la région de Damas, qui a fait hier 12 morts, dont des enfants et des secouristes. Paris parle d'ailleurs d'un acte abject et accuse le régime de violer la trêve et de poursuivre ses exactions. Retour en France avec un sondage pour le moins alarmant. Alors que le SIDAction débute aujourd'hui et pour 3 jours, 22% des 15-27 ans pensent toujours que l'on guérit du sida et ils sont 13% à n'avoir jamais eu d'informations sur la maladie. Le sondage révèle également une augmentation du risque d'attraper le sida par manque de connaissances et par des pratiques inconscientes. Enfin, et pour terminer sur une note un peu plus positive, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, le festival Quai du Polar débute aujourd'hui à Lyon. Du 1er au 3 avril, rendez-vous dans la capitale des Gaules pour les amateurs de romans et de films noirs. À l'affiche, rencontres avec des auteurs, projections de cinéma et livres à gagner. Ne manquez pas ce festival lyonnais incontournable et ménagez-vous aussi une place dans vos agendas. Demain soir, à l'ENS de Lyon, les délurés Papou dans la tête de France Culture viennent enregistrer à 19h une émission en public. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Et vous pouvez bien sûr retrouver plus d'informations sur notre site et celui de France Culture.
Merci Céline. Prochain flash dans une heure. Mais pour l'heure, justement, c'est l'heure d'entendre Il y a une vie après normale. Et Quentin reçoit aujourd'hui Jules, bédéiste et notamment auteur de Silex and the City.